Soir Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous pour développer les points de votre actualité. Au Nigeria, 8 soldats au moins ont été tués lors d'un raid de Boko Haram sur un camp militaire et un village dans le nord-est. Le porte-parole de l'armée pour Damaturu, le colonel Kayode Ogusanya, a déclaré qu'il a eu des victimes des deux côtés. C'est la troisième visant l'armée dans la région en moins de 2 semaines, marquant une reprise des hostilités avec la fin de la saison des pluies le mois dernier. La crise politique qui secoue le Togo depuis 2 mois et fait au moins 16 morts a suscité des appels au dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
La France a appelé l'opposition et le gouvernement à un dialogue immédiat pour aboutir à des réformes politiques. Paris demande à Lomé de respecter le droit de manifester. Mardi, les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face à la violence et les restrictions à la liberté d'expression et de rassemblement. Washington estime que le dialogue sans préalable est la seule solution pour sortir de l'impasse. Le président ivoirien Alassane Ouattara aussi a exhorté l'opposition et la présidence à ouvrir des négociations. Selon M. Ouattara, les 5 chefs d'État présents à Niamey pour une réunion de la CEDEAO ont parlé de la situation au Togo. Le gouvernement togolais a établi un projet de modification constitutionnelle qu'il veut soumettre au référendum. L'opposition rejette ce projet. Elle soutient que la limitation des mandats n'est pas rétroactive et permettrait à Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se représenter. La coalition de l'opposition entend poursuivre ses manifestations la semaine prochaine.
Les Kenyans se déplaçaient sans enthousiasme pour élire leur président, mais certains partisans de l'opposition bloquaient même l'accès au bureau de vote, ce qui a déclenché des heurts avec la police. Quelques 19,6 millions d'inscrits étaient en théorie attendus dans les 40 883 bureaux de vote, mais le contraste était saisissant avec l'effervescence qui avait marqué le scrutin présidentiel du 8 août, invalidé par la justice pour irrégularité. Estimant que l'élection ne pouvait être transparente et juste, le leader de l'opposition Raila Odinga l'a boycotté. Il a appelé ses partisans à rester chez eux ou à participer à des prières collectives à l'écart des bureaux de vote.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le Congo a dispensé de visas à les ressortissants des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, pour un séjour n'excédant pas 3 mois sur son territoire. Le Congo est le 4e pays de la zone à appliquer cette disposition visant la libre circulation des personnes après le Tchad, la République centrafricaine et le Gabon. Justement, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a déclaré que le dialogue avec les groupes armés est au centre de sa stratégie. Propos exprimés lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les deux hommes ont pris la parole après une réunion de travail conjointe à la présidence sur le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR lancé par le gouvernement et soutenu par l'ONU. Monsieur Guterres a lancé un appel aux groupes armés pour qu'ils acceptent de participer à la vie politique du pays, assurant que le président centrafricain avait tout l'appui des Nations Unies. Toutefois, ce projet restait fragile. Les conflits restent vivaces, faisant des centaines de morts civiles ces derniers mois dans certaines parties du pays, le sud-est, le nord-ouest et le centre. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Nick Haley, est arrivé à Goma dans l'est de la RDC où se déroulait une manifestation anti-Kabila. Madame Haley est arrivée à Goma à bord d'un avion militaire avant de prendre un hélicoptère de la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, pour Kichanga, localité située à environ 80 km au nord-ouest de Goma, capitale du Nord Kivu. La RDC est confrontée à une crise humanitaire et politique profonde. Toujours RDC, au moins 64 civils ont été tués en avril au Kasaï par une milice soutenue par les forces armées congolaises. Selon un rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, le BCNUDH, Eddie Sango a joint dans la région à Chicapa le coordinateur du réseau des ONG des droits de l'homme, Alain Kanchama.
Les rapports d'OC et notre réseau avait annoncé au début du mois demain, dans son rapport intitulé « Urgence », il y avait plus de 200 personnes qui avaient péri, dont certains étaient soit décapités, soit tués par balles, soit incendiés ou brûlés vifs dans des maisons, et qu'il y avait plusieurs fermes qui étaient incendiées et plusieurs des milliers de personnes avaient quitté les lieux de résidence vers la ville de Chicapa, la province de Kwilu et la province Serre de Lunda, nord en Angola. Donc cette milice ou ces mouvements de résistance était tellement actif dans les territoires de Chicapa et d'environ trois secteurs. Donc le secteur de Lova Luangachimu, Lova Lushiku et le secteur de Bapende.
Les bureaux de coordination des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC parlent plutôt des milices Banamura qui ont été créées par les gouvernements.
Ces mouvements s'est transformé. Au lieu de faire la résistance à la progression rapide des Kamuina Sapu, ces mouvements s'est transformé en une milice, donc en une puissance qui chassait tous les critères de la langue Luba, les Lutu, les Bindi, les Luba et les autres étaient chassés dans les villages à majorité occupés par les Tchoukwe qui étaient d'ailleurs les auteurs de la milice Banamura.
Les porte-parole du gouvernement a précisé que Banamura, c'est le nom du centre de formation de la garde présidentielle qui n'est même pas situé au Kasai, mais plutôt dans le Katanga. Mais pourquoi les appelle-t-on Banamura?
Quand ils ont créé ces mouvements, eux-mêmes se sont donné le nom de Banamura. Aujourd'hui, si vous essayez de joindre ceux qui sont en Angola, la population qui a fui les hostilités de cette milice Banamura vers l'Angola, elle vous dira la même chose. En réalité, en vérité, ces mouvements existent. C'est une milice qui a pris le nom de Banamura et qui a commis des actes de xénophobie, des actes barbares à travers les territoires de Chicapa, à travers les trois secteurs. Les autorités congolaises ne veulent pas qu'on parle de cette milice parce qu'il y a eu au début là une collaboration entre la police et cette milice dans la cité de Kamonya. Il y a des axes où jusqu'à ce jour, les militaires ou les policiers ne sont pas déployés. Il y a des femmes et des enfants qui sont tenus en esclavagisme de ce côté-là, l'esclavagisme sexuel.
Alain Kanchama, coordinateur du réseau ONG des droits de l'homme à Chicapa, dans le Kasaï. Le gouvernement du Burundi a adopté un projet de révision de la Constitution. Il pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza d'obliger dès 2020 de nouveaux mandats de 7 ans et d'affermir ainsi encore plus son emprise sur le pays. Cette révision changerait en profondeur la constitution du Burundi issue de l'accord de paix signé en 2000 à Arusha dans le nord de la Tanzanie. Cet accord avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts entre 1993 et 2006.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président indépendantiste de la Catalogne, Charles Puigdemont, fera une allocution solennelle à 13h30, temps universel, à Barcelone, au palais du gouvernement régional. Demain, le Sénat se penche sur un vote crucial relatif à la suspension de l'autonomie de sa région. Ce discours impromptu intervient alors que le dirigeant régional est sous pression, y compris dans son propre parti conservateur indépendantiste, pour convoquer immédiatement des élections régionales. Il reçoit également de nombreuses pressions dans le secteur de son parti. Des milliers d'étudiants ont été rassemblés à la mi-journée à Barcelone pour soutenir la proclamation d'une république indépendante et protester contre la mise sous tutelle de la Catalogne prévue par Madrid. Et UE rouge à la main où drapeau indépendantiste est noué autour du cou, le cortège parcourait les rues du centre de la capitale catalane. Le Qatar et la Russie ont signé un accord de défense à l'occasion d'une visite à Doha du ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu, un mémorandum d'entente concernant la coopération dans le domaine de la défense anti-aérienne. Les fournitures d'armes a également été signé depuis le début de la rupture diplomatique avec l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Le Qatar a annoncé un accord de 10 milliards d'euros pour l'achat de F-15 aux États-Unis. Un accord de 5 milliards d'euros avec l'Italie pour 7 navires de guerre et un accord pour l'achat de 24 avions de chasse Typhon à la Grande-Bretagne. Fin de ce bulletin d'information. Je vous retrouve dans 50 minutes pour le prochain journal avec Eric Mandakiza toujours. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.